maintenant, on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Il faut que ça s'arrête.
Avertissement. Cette émission aborde le thème des violences sexistes et sexuelles.
En avril 2025, un rapport parlementaire mené par les députés Sandrine Rousseau et Erwan Balanant a révélé que les violences sont, je cite, « systémiques, endémiques et persistantes » fin de citation, dans le secteur de la culture incluant notamment la musique. Mais de quelles violences parle-t-on? Qui sont les victimes? Pourquoi ces violences sont-elles si nombreuses? Quelles solutions de prévention, de lutte? Dans cet épisode de Maintenant en écoute, nous tenterons de répondre à ces questions. Réalisée par l'association Consentis en 2018 et qui a permis de chiffrer ces violences, plus d'une femme sur deux ne se sent pas en sécurité et 60% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle en milieu festif. Domiti Ravo, l'une des cofondatrices de l'association Consentis, nous parle de l'association, de sa création et des différentes actions menées, que ce soit auprès des professionnels de la fête ou des fêtards et des fêtardes.
Donc l'association Consentis, ça a été une des premières associations de prévention contre les violences sexuelles et discriminatoires en milieu festif. On s'est créé en 2018, donc juste après la vague MeToo, voilà, qui a mis en lumière les violences dans l'espace public. Nous, on a eu envie de ramener et de parler de ces problématiques dans les espaces festifs. Ça fait bientôt 8 ans qu'on accompagne à la fois les organisateurs et organisatrices d'événements festifs à mettre en place des dispositifs de prévention, des protocoles de signalement pour gérer les incidents, les violences qui ont lieu dans leurs événements, et aussi un accompagnement de sensibilisation donc à destination des publics, notamment à travers des stands qu'on va tenir directement dans les espaces donc boîte de nuit festival, et des maraudes, donc des équipes qui sont en soutien avec le personnel de sécurité et qui sont en brigade volante dans les événements pour voir si tout se passe bien, s'il y a des problèmes, et pouvoir intervenir et faire remonter les informations aux organisateurs et organisatrices s'il y a besoin.
La formation est une composante importante dans la lutte contre les VSS. Plusieurs associations telles que Consentis proposent des parcours de formation à destination des professionnels de la fête.
Consentis, donc, c'est un organisme de formation qui est certifié par Calliope. Et donc, ces formations qu'on propose aux organisateurs et organisatrices d'événements festifs, il y en a plusieurs. La formation classique, on va dire de base, c'est sur une journée. On va pouvoir parler de ce que c'est que les qualifications juridiques, par exemple, des violences sexuelles, mais aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif, des actions concrètes, en fait, dans son événement pour pouvoir les prévenir et, par exemple, développer un protocole de signalement pour que les victimes puissent signaler des incidents.
Sont commises dans un contexte bien particulier. Obscurité, promiscuité, usage d'alcool, de drogue, espaces censés être des espaces de liberté. Toutes ces caractéristiques et bien plus contribuent à invisibiliser les violences. C'est pourquoi il est indispensable de les documenter, de rendre visible l'insécurité et les violences, d'écouter et d'amplifier la parole des victimes. Consentis mène un important travail de recherche et d'enquête afin de faire un état des lieux des VSS en milieu festif en France. La première est sortie en 2018 et a permis de fournir des chiffres et des données clés dans la lutte contre les VSS. Ces chiffres permettent au public, aux collectivités, aux médias, aux actrices de la fête de mieux comprendre les mécanismes de violence et d'exclusion, de sensibiliser et également de donner du poids aux revendications politiques. En juillet 2025, Consentis publie une nouvelle enquête intitulée « Nos nuits sous tension, pratiques festives, sentiments de sécurité et violences sexuelles et discriminatoires en France ».
Alors la première enquête de 2018, ça a été vraiment notre première action en tant qu'association. Donc c'était pour faire un état des lieux des violences sexuelles en milieu festif. 7 ans plus tard, on avait envie de faire un nouvel état des lieux, 7 ans après MeToo. Et pendant ces 7 années où on est nombreuses associations à avoir mis en place des actions pour prévenir des violences en milieu festif et accompagner les organisateurs et organisatrices. On avait envie du coup de voir les résultats en 2025 et notamment aussi de s'intéresser particulièrement aux violences subies par les femmes et les personnes LGBTQIA+. Voilà ce qu'on n'avait pas fait dans la première enquête. Enquête, on s'est vraiment focus en fait sur les violences sexuelles et discriminatoires. Donc, les questions d'exposition aux violences, on a posé la question sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, le viol, la soumission chimique et les violences LGBTQIA-phobes verbales ou physiques.
Domiti nous explique comment les résultats de cette enquête ont été récoltés.
L'enquête, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'était un court questionnaire de moins de 10 minutes, justement pour avoir le moins de questions possibles et avoir le plus de participation possible. Et donc, qui a été largement diffusée sur nos réseaux sociaux et avec l'aide de nos partenaires associatifs, notamment. Donc, les participants ou participantes étaient recrutés sur les réseaux sociaux pour répondre à chacun individuellement au questionnaire. Et on a obtenu plus de 3000 réponses, ce qui est pas mal.
Quels sont les résultats et les données clés de cette enquête? Quelle différence par rapport à celle menée en 2018?
Alors, ce qu'on a vu par rapport aux résultats de 2018, déjà, c'est que les résultats qu'on a obtenus en 2025 sont alarmants, notamment les chiffres d'exposition aux violences. Notamment, on a cette donnée qui est que plus de 8 femmes et minorités de genre sur 10 déclarent avoir subi des violences sexuelles en milieu festif. Et particulièrement, on a 10% des répondants et répondantes qui déclarent avoir été violés en milieu festif, ainsi que 25% des répondants et répondantes qui ont subi au moins une violence LGBTQIA+ en milieu festif. Qu'on veut avec cette enquête, c'est vraiment appeler à mettre en place des actions, appeler à qu'il y ait une réponse collective et appeler les organisateurs et organisatrices qui ne mettent pas encore en place des actions de prévention de finalement les mettre en place. L'apport de cette enquête de 2025, c'est surtout les chiffres sur les personnes LGBTQIA+, qu'on n'avait pas du tout en 2018. Donc typiquement, ce qu'on voit dans l'enquête de 2025, c'est que il y a à peu près 25% des répondants et répondantes qui ont subi au moins une violence LGBTQIA+ phobe verbale ou physique en milieu festif. Ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas du tout en 2018.
Ces résultats ne sont pas surprenants. Les violences sont encore extrêmement présentes en milieu festif. Domiti nous explique pourquoi un focus a été fait sur le genre et l'orientation sexuelle dans cette enquête de juillet 2025.
Avec notre expertise de terrain, on sait que les femmes et les personnes LGBTQIA+ sont les personnes les plus vulnérables et les plus à risque en fait dans les milieux festifs. Donc, quand on s'est intéressé à refaire du coup cette enquête sur le sentiment de sécurité sur les pratiques festives, c'était une évidence en fait pour nous de pouvoir filtrer les résultats selon le genre et l'orientation sexuelle pour pouvoir justement mettre en évidence ces problématiques. Et c'est ce qu'on voit dans les résultats. Donc, comme je disais, qui était attendu. C'est bien les femmes et les personnes LGBTQIA+, qui sont le plus victimes de violences sexuelles et discriminatoires dans les milieux festifs.
Et elles souffrent même de revictimisation, c'est-à-dire qu'elles subissent ces violences à plusieurs reprises, notamment dans les cas de harcèlement et d'agression sexuelle.
Les femmes et les personnes LGBTQIA+, sont les personnes les plus exposées aux violences, notamment parce que c'est des violences qui sont issues d'un système patriarcal et d'un système de la domination masculine, dont les violences LGBTQIA+, en découlent en fait de ce système-là. Donc voilà, on l'a bien vu avec le mouvement MeToo, etc. C'est les femmes qui témoignent le plus d'être victimes de violences sexuelles et les personnes LGBTQIA+, qui sont le plus souvent victimes de LGBTQIA-phobie.
Domiti nous explique que certains lieux festifs sont perçus comme plus insécurisants que d'autres.
Il y a un sentiment de sécurité qui est différent en fait selon les lieux de fête. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les boîtes de nuit qui sont perçues comme les lieux les plus insécurisants, en fait, si on compare avec d'autres lieux comme les festivals, par exemple, ou les concerts, ou les bars. C'est vraiment les boîtes de nuit où les personnes se sentent le plus en insécurité, notamment donc, par les publics minorisés, donc comme je disais, les femmes et les personnes LGBTQIA+.
Une question se pose. À qui incombe la responsabilité de la sécurité des fêtards et des fêtardes? Les orgas, les lieux festifs, les individus?
Ce qu'on voit majoritairement dans l'enquête de 2025, c'est que la majorité des participants et participantes estiment que c'est aux établissements festifs et aux organisateurs et organisatrices de mettre en place des actions pour les protéger. Donc c'est les établissements festifs et les organisateurs risques qui sont finalement responsables de la sécurité, ainsi que évidemment la majorité aussi des participants estiment que la responsabilité de leur sécurité leur revient à titre individuel. Donc je dirais que c'est les trois acteurs principaux de la sécurité, c'est soi-même, les établissements festifs et les organisations.
Malgré les résultats de l'enquête qui soulignent la responsabilité partagée, les fêtards et surtout les fêtardes se sentent parfois démunis et dans une insécurité telle qu'elles développent des stratégies d'évitement bien connues de tous.
Alors, des stratégies d'évitement, ça va être des comportements que les personnes minorisées vont mettre en place justement pour avoir un sentiment de contrôle par rapport aux violences qu'elles peuvent subir. Donc, c'est des actions qui vont être mises en place un peu de manière automatique ou apprise socialement pour se protéger, notamment parce qu'il y a un fort sentiment d'insécurité dans les milieux festifs. Comme stratégie d'évitement qu'on connaît bien de manière générale, c'est aller en milieu festif accompagné, c'est aller aux toilettes toujours avec ses copines, envoyer des messages à ses amis quand on rentre de soirée, etc. Le fait aussi de ne pas laisser son verre en surveillance et de faire attention à sa consommation d'alcool ou de drogue. On a une responsabilité individuelle, visiblement, des stratégies individuelles qui sont mises en place et collectives, donc se rendre en milieu festif accompagné.
Il est important de préciser que cette enquête comporte des limites et qu'il est nécessaire de poursuivre le travail de recherche et de documentation de ces violences.
Il y a plusieurs limites à cette enquête. Il y a le fait notamment que la plupart des personnes qui ont répondu à l'enquête viennent de villes, donc de zones urbaines. Alors qu'on sait très bien qu'il y a aussi des espaces de fête hors zone urbaine. Mais du coup, c'est des publics qui n'ont pas pu témoigner forcément dans notre enquête. Il y a aussi le fait que on a une faible représentation des hommes trans et des femmes trans dans l'échantillon. Voilà, ça a été difficile en fait de recueillir. On a à peu près 30 personnes, 30 participants respectivement pour les hommes trans et les femmes trans. Mais c'est quand même un échantillon qui est assez faible pour mettre en lumière leur expérience dans le questionnaire. Il y a aussi le fait que on s'est vraiment concentré sur le genre et l'orientation sexuelle, mais pas sur d'autres critères de discrimination. Donc on n'a pas pu contrôler toutes les violences discriminatoires qui peuvent avoir lieu en milieu festif, validisme, racisme, grossophobie, etc., qui interagissent en fait avec les violences sexuelles dont on parlait et violences LGBTQIA+. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler non plus.
C'est du feu. Faire l'amour quand je veux, c'est les règles du...
Bien que le constat reste alarmant, certaines organisations culturelles s'emparent de ce sujet et essayent de lutter contre les violences sexistes, sexuelles et discriminatoires. C'est notamment le cas de l'association Les Morues Électriques à Amiens. Louisa, sa cofondatrice, nous parle de son engagement militant et de l'historique de l'association.
Moi, c'est Louisa, j'ai 28 ans. À la base, j'ai commencé à entrer dans le militantisme et dans les associations vers fin 2018, début 2019. C'est là que j'ai commencé à rencontrer pas mal de collectifs et beaucoup de militants, surtout des militantes. J'ai intégré une association qui s'appelait Les Bavardes, une association féministe et lesbienne qui portait différentes actions tout au long de l'année sur les questions de genre, d'égalité, de lesbophobie, de transphobie également, et tout ce qui touche en fait à la communauté LGBTQIA+, mais avec un focus sur les femmes lesbiennes qui sont beaucoup invisibilisé, les personnes lesbiennes plutôt. Et on a dissous l'asso en octobre 2022. Et après toutes ces années de lutte commune, on avait réussi à créer des espaces en quelque sorte très sécurisants pour nous, dans lesquels on ne subissait pas ce qu'on vit aujourd'hui dans l'espace public et dans le milieu de la fête. On ne voulait pas forcément s'arrêter comme ça, donc quelques membres de l'asso et d'autres personnes très intéressées dans le milieu de la culture, de l'art et surtout de la musique se sont greffés à nous. Début 2023, on a décidé de créer les Morues Électriques en se disant qu'on allait moins s'user et s'abîmer en militant, mais qu'on allait plutôt mettre en avant, à la base c'était focus sur les femmes musiciennes qui sont très invisibilisées aussi. Et donc voilà, on était 5 ou 6 personnes je crois à la création, et aujourd'hui il y a eu beaucoup de mouvements, des départs, des nouvelles arrivées, et à ce jour on n'est plus que 2 personnes, donc Catherine Pink Moloko, son nom d'artiste, qui a été aussi fondatrice des Bavardes, et moi-même.
Louisa évoque le nom de l'association qui détourne une insulte.
Quand on se rassemblait, on aimait bien partir dans tous les sens en termes de réflexion. C'est un peu en lien aussi avec le nom des Bavardes, parce que c'est un terme qui est très stéréotypé pour qualifier les femmes. Et donc là, on est parti sur les morues, pareil, qui est une insulte utilisée et qui a une origine péjorative envers les femmes. Et électrique, parce qu'à la base, on était vraiment focus sur la musique électronique, techno, tout ça. Sur une blague, c'est parti, et du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas.
Louisa nous expose également les raisons qui font que cette association existe aujourd'hui.
On voulait pouvoir retrouver des espaces où on se sentait en sécurité, où on se sentait bien. Donc il y a vraiment un axe sur les violences et le harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif.
Les Morues Électriques mènent de nombreuses actions afin d'intégrer les questions de lutte contre les VSS lors de leurs événements.
On essaye de beaucoup discuter avec les grandes entités de la scène musicale. On a déjà eu des moments avec la Lune des Pirates notamment. Et on essaye de travailler aussi avec des lieux un peu moins fréquentés qui se sont par ailleurs fait former aux questions de VHSS en milieu festif. En ce moment, on travaille beaucoup avec une association amiennoise qui s'appelle Safe 80, qui est une association de lutte contre les discriminations de tout type. Et ça passe aussi par les violences et harcèlements sexistes et sexuels en milieu festif. Et donc, elle dispense des formations à plein de publics différents. Et on a notamment pu organiser une soirée récemment, c'était au mois de juin, avec ce collectif-là. Et surtout, on essaye un maximum d'être vigilante lorsqu'on organise des choses. Et on a également pu faire un séminaire avec une personne formée sur ces questions-là pour aussi nous-mêmes se former. On préfère faire peu d'événements et qu'ils soient bien cadrés et qu'on puisse être présente et faire très attention. même si on ne peut pas tout non plus contrôler, entre guillemets, et voilà. Généralement, donc, on a des stands, on essaye en amont, dans toute la communication, avant, pendant, après, d'expliquer un peu des choses bon, qui paraissent logiques, mais qui n'apparaissent pas forcément aujourd'hui dans les endroits de fête, notamment autour du consentement, sur plein de manières différentes. Et pareil, il y a toujours des personnes présentes aux aguets pour essayer de gérer éventuellement des situations complexes, quoi. C'est principalement comme ça qu'on essaye de sensibiliser. Et aussi, ça passe par le partage de beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, de personnes qui font ce travail très bien, notamment comme Consentis, par exemple. Et puis après, ça passe par la discussion avec les personnes directement quand ça arrive.
Louisa nous explique qu'une ville de taille moyenne comme Amiens n'échappe pas aux violences, que la réalité d'une association comme les Morues électriques n'est pas simple et que les obstacles sont nombreux.
Le constat est que dans quasiment l'intégralité des lieux amiénois, il y a des problèmes de violence, majoritairement dirigés envers les personnes sexisées et minorisées, et que ça vient majoritairement des hommes cisgenres, hétéros, blancs. Et nous, en fait, après plein de réflexions, des mois de travail là-dessus, on s'est dit que ça manquait à Amiens des lieux, des espaces déjà queer et aussi surtout des espaces dans lesquels on fait tout pour que ça se passe au mieux. Après, c'est clair que même si les organisatrices, les personnes qui organisent des événements mettent le maximum, c'est aussi aux personnes qui viennent pour qu'il y ait une prise de conscience et des agissements pour faire attention à ces comportements et aux comportements de ceux qui nous entourent, parce que c'est quasiment systématique qu'il y ait des problèmes. En tout cas, de mon vécu personnel, j'ai été agressée plusieurs fois en milieu festif et de plein de manières différentes, et même dans des endroits qui se disaient comme étant queer ou safe. Et c'est très compliqué de pouvoir essayer de construire des choses. Aussi des lieux qui essayent de s'approprier toute cette démarche de créer des événements safe, alors que bah, pour le coup, pareil, ça peut être porté par des personnes qui elles-mêmes ont pu être oppresseuses. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on essaye de bien réfléchir et de prendre notre temps et de se mettre en contact avec des personnes un minimum déconstruites. Mais après, c'est vrai que l'idée de vouloir travailler, pourquoi pas former ou organiser des choses avec les endroits problématiques pour justement que les choses changent, c'est un désir.
Louisa insiste sur l'intérêt de diversifier la programmation et d'agir en faveur d'une meilleure représentativité de tous, notamment des personnes sexisées et minorisées.
Et il y a aussi visibiliser, aujourd'hui c'est plus les personnes sexisées et minorisées qui existent, il y en a partout, et pour autant dans les grands festivals, dans les programmations, ces personnes-là sont peu présentes, et quand ces personnes interviennent, sont aussi très précarisées, très peu rémunérées, voire pas du tout. Il y a beaucoup de bénévolat, quoi, et donc on s'est dit qu'il était essentiel, au moins sur le territoire amiénois et alentour, de pouvoir proposer des soirées où on mettrait le focus sur ces personnes-là. C'est fondamental et c'est politique avant tout, parce que plus il y aura de personnes sexisées et minorisées visibilisées, et plus ces personnes-là seront sur scène, prendront leur place, et moins ce sera toujours les mêmes personnes qui seront aux décisions. En fait, c'est systémique et on essaye de partir du bas pour de plus en plus rendre les choses normales et égalitaires comme elles devraient l'être. Et parce que bah, ces personnes-là, en fait, doivent fournir un double travail et vivent beaucoup de discrimination. Et l'idée, c'est de pouvoir leur laisser la place, quoi, pour exister. Et pourquoi pas que ça puisse faire des ricochets sur d'autres événements, d'autres scènes. Après, il est déjà arrivé aussi qu'on fasse un événement où ce soit une sorte de groupe de parole avec des artistes donc minorisés, sexisés d'Amiens. Donc on a fait ça une fois, mais l'idée c'est vraiment que ça puisse se réitérer et que la parole aussi puisse se libérer quoi, autour de tout ça.
Ce que nous dit Louisa fait écho aux recommandations formulées par Consentis dans son enquête de juillet 2025.
Nous, on a écrit du coup 5 recommandations à la fin de l'enquête pour essayer de transformer le secteur. La première chose qu'on recommande, c'est de renforcer les dispositifs de prévention qui sont mis en place dans les espaces festifs, en essayant de renforcer les dispositifs de prévention ciblés pour certaines populations, donc typiquement les femmes et les personnes LGBTQIA+, qui sont plus à risque de violence dans les espaces de fête. Ensuite, on a aussi le fait de renforcer la co-responsabilité, donc créer des emplois avec des référents de prévention dans les organisations festives, avoir des clauses spécifiques dans les contrats avec les équipes de sécurité par rapport à l'exposition aux violences. On a aussi comme recommandation de continuer à faire appel à des centres de prévention ou mettre en place des safer zones, des zones d'accueil pour les personnes vulnérables dans les espaces festifs, qui soient bien communiqués aux fêtards et aux fêtardes, parce que c'est des endroits qui sont clés pour relayer la parole, écouter les personnes victimes, les rassurer, etc. Ensuite, on a la quatrième recommandation qui est sur le fait de diversifier la programmation. Donc, en gros, on fait le constat que dans l'enquête, que le fait d'avoir un événement avec notamment des artistes issus des publics LGBTQIA+, ça c'est un indicateur qui renforce la sécurité, le sentiment de sécurité auprès des publics LGBTQIA+. On aimerait que la diversité dans la programmation et le public soit quelque chose qui soit valorisé. Et la cinquième recommandation qu'on fait, c'est le fait de continuer en fait la collecte de données. Voilà, nous, aujourd'hui, on a cette enquête sur le genre et l'orientation sexuelle en milieu festif, mais on aimerait vraiment que d'autres données soient collectées pour justement identifier les angles morts qu'il y a dans notre enquête. Ces données-là, en fait, renforcent la première recommandation qu'on fait de faire des actions de prévention qui soient ciblées selon les personnes qui vivent des violences en espace de fête.
On constate certaines avancées réjouissantes, mais il reste du travail pour venir à bout des VSS.
Saisissez-vous de cette enquête, lisez-la, partagez-la. Partagez-la aussi à des organisations festives et demandez-leur à ce qu'ils mettent en place des actions de prévention. Parce qu'on a vraiment besoin en fait, aussi que le public se saisisse de ces enjeux et soit plus exigeant avec les organisations festives.
Pour finir, Louisa nous partage sa soirée idéale et nous propose de rêver un peu.
Pour moi, la soirée idéale, mais c'est de mon point de vue, c'est justement des soirées en mixité choisie, dans lesquelles on puisse s'exprimer, que ce soit sans aucun jugement et en pouvant aussi exister en tant que personne à travers la danse ou non, les consos ou non, et dans lesquels on puisse se sentir libre, léger, comme on peut l'être parfois chez soi et parfois avec certaines amies, certains amis avec qui on peut partager des petites bulles, mais que là, ça puisse se faire dans un immense lieu avec plein de personnes.
Thank you.
Cet épisode de Maintenant en écoute était majoritairement consacré aux violences subies par les fêtards et les fêtardes, mais les artistes et les professionnels de la fête subissent également ces violences, dans leur cadre de travail ou non. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter l'étude exploratoire d'Au-delà du club qui s'intéresse aux violences subies par les artistes et professionnels de l'écosystème nocturne en France. Merci à Domiti Ravo de Consentis et à Louisa des Morues Électriques pour leur participation. Vous pouvez retrouver tous les travaux de Consentis et leur actualité sur leur site internet consentis.info et sur Instagram @consentisinfo. Pour plus d'informations sur les morues électriques, rendez-vous sur leur page Instagram @lesmorueselectriques. Et merci à vous pour votre écoute.
Cet épisode de Maintenant on écoute a été écrit et réalisé par Inès De Winter pour Radio Campus Amiens. Si vous êtes victime de violences sexistes et sexuelles, vous pouvez composer le 3919. Ce numéro est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Trigger warning, this song is about abuse on the music scene. The reason why we have a problem with abusers on our scene is because people don't call out your mates. If you don't call out your mates, it perpetuates their behaviour because they have no fucking consequence. So call out your mates, don't be traumatised victims, and have the awareness to make sure you're looking out for others.
Throughout the UK, only between 1-8% of all sexual assault cases can end up in conviction. So it's more important than ever that we all look after each other rather than rely on police because they don't care.
Don't be a dickhead. This song's called Boys in the Bath.